tous. Merci d'être venus à la médiathèque de l'Europe. Donc c'est notre premier événement de la saison culturelle de cette année et donc on vous propose de commencer une rencontre dédicace avec une série qui s'appelle Tour de Garde, une série que je vous recommande vivement. Et puis nous avons donc les deux auteurs Claire Duvivier et Guillaume Chamaré-Jean qui ont écrit les premiers tomes de la série, et l'honneur aussi qu'on a c'est d'avoir David Neumann, des éditions Forges de Vulcain, qui vont pouvoir vous parler de la série. Je vous laisse apprécier.
Eh bien, je remercie beaucoup la médiathèque de l'Europe de nous accueillir en ce jour. Nous sommes le samedi 17 septembre 2022, il est 15h passées. Alors, deux petites choses, une petite anecdote, c'est qu'en fait, la maison d'édition est une maison d'édition qui est sise à Bussy-Saint-Martin. Et que moi j'ai grandi à côté d'ici et qu'à l'époque il n'y avait pas de médiathèque, et je trouve ça fantastique qu'il y ait enfin une médiathèque et qu'en plus les Forges de Vulcain soient invitées. Les Forges de Vulcain, c'est une maison d'édition qui a une dizaine d'années et qui publie de la fiction, parfois des romans qu'on dira de littérature générale et parfois des romans d'imaginaire ou d'imagination, comme c'est le cas avec les romans de Claire et Guillaume. En parlant de Claire et Guillaume, à la fin de la rencontre, vous avez été convaincu et que vous avez envie de découvrir ces romans, vous pourrez les acheter et vous les faire dédicacer. Claire et Guillaume, je vais vous présenter rapidement. Claire, je ne sais plus où tu es née, mais ce n'est pas très important. Mais tu es romancière et éditrice. Tu es notamment la cofondatrice des éditions Asphalt, une maison d'édition qui a un peu plus de 10 ans et qui publie des romans qui relèvent des littératures urbaines, donc de la littérature générale et du polar. Vous êtes fait connaître pour des textes, des traductions de littérature d'Amérique du Sud, mais vous avez aussi découvert des pépites francophones avec des auteurs comme Emmanuel Villain ou Timothée Demélier.
Tout à fait. Et donc, je suis née à Pontoise, dans le Val d'Oise.
Et voilà. Pardon ?
Je suis née à Pontoise.
Voilà, c'est ça.
Voilà, si vraiment...
Je ne pas le dire, mais je m'en suis souvenu. Si je me suis dit que si tu n'es pas née dans la Seine-et-Marne, il ne faut pas le dire. Voilà.
Ah d'accord, oups, pardon.
Alors, je ne vais rien dire, moi.
Ta dernière actualité en tant qu'éditrice, c'est le dernier roman d'Emmanuel Villain, qui est sorti à cette rentrée littéraire, qui a pour titre...
La fugue thérémine, et qui parle de l'inventeur du thérémine, qui était un scientifique, ingénieur russe au XXe siècle. Et en fait, le thérémine, c'est le seul instrument qu'il ne faut pas toucher pour émettre des sons. C'est-à-dire que c'est les ondes magnétiques qui font que quand on effleure l'air autour des antennes, ça fait un son qui ressemble à une longue plainte ou un violoncelle à la rigueur. Voilà.
Et en fait, ton entrée en littérature, c'était en 2020 avec un premier roman publié aux éditions aux Forges de Vulcain qui s'intitule Un long voyage, dont on va parler un tout petit peu. Roman qui a été couronné de succès, puisqu'il a remporté plusieurs prix. Il a remporté le prix du meilleur roman de l'édition indépendante, le prix Libre à nous, qui est donc le prix des libraires dans la catégorie imaginaire, et je sais qu'il y en avait un troisième qui était très important.
Le prix Elbakin.
Le prix Elbakin, qui est donc le prix des lecteurs de fantasy francophone.
Oui.
Voilà. Guillaume Chamaré-Jean, toi tu es né à Aix-en-Provence.
Voilà, donc pas du tout dans la Seine-et-Marne.
Voilà.
Et encore moins en Ile-de-France.
Et encore moins en Ile-de-France.
Voilà. Tu as été libraire.
Tout à fait.
Très peu, mais un peu quand même.
Un peu, surtout en bande dessinée.
Tu as fait des études d'édition, mais sur la partie un peu commerciale de l'édition.
C'est ça.
Et actuellement, tu travailles dans un groupe éditorial j'ai bien précisé, les éditions aux Forges de Vulcain sont une maison d'édition indépendante, donc nous n'avons aucun lien professionnel, en dehors du fait que tu es mon auteur, je suis ton éditeur.
Voilà.
Et toi, tu es rentré en littérature avec un premier roman, Le sang de la cité, publié aux éditions Forges de Vulcain, qui a été un succès critique et un succès commercial. Et Le sang de la cité, c'est le premier titre dans ce cycle de la tour de garde qu'on définit souvent comme une double trilogie. C'est une petite particularité de construction qu'on va vous expliquer. Et voilà, est-ce que c'est bon pour l'instant ?
Écoute, jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien. Alors, peut-être que avant d'aller vers mes questions, j'aurais besoin que vous nous expliquiez un peu l'origine du projet et après le fonctionnement de cette série. Je vais peut-être pour l'origine du projet commencer par toi, Guillaume. D'où vient ce projet de la tour de garde ?
Alors en fait, le projet est vraiment né au cours d'un voyage en fait qu'on a fait avec Claire Duvivier. On était dans le nord de l'Italie, on avait fait un petit peu la Toscane. Donc quand on voyage avec Claire, en fait, on prend le train et puis on fait plusieurs villes où on reste 2-3 jours maximum. Donc on avait fait évidemment Florence et en fait il se trouve qu'on est allé à Sienne. Donc on a passé 2 nuits, je crois, à Sienne. Et en fait, on est complètement tombé amoureux de cette ville. Alors, Sienne, si vous ne connaissez pas, c'est une ville médiévale avec des murs très très rouges, des petites ruelles, et qui a une petite particularité, c'est que chacun des quartiers, en fait, est à l'image d'un animal. Donc il y a un animal emblématique, il va y avoir une tortue, un dauphin, et on sait qu'on change de quartier parce qu'il y a des petites statuettes sur les angles des murs dans la ville qui disent bah, « là, vous entrez dans le quartier de la tortue ». Et chaque quartier a son église, sa fontaine, avec évidemment une statue de l'animal emblématique en majesté. Et tous les ans, il y a sur la place centrale, qui fait la moitié d'un terrain de foot à peu près, il y a une course de chevaux en fait, entre les champions de tous les différents quartiers. Donc en fait, bon, nous on n'y était pas au moment, donc ça s'appelle le Palio, on n'y était pas à ce moment-là. La course de chevaux, c'est une fois le tour de la place, donc vous imaginez bien, ça dure quelque chose comme 1 minute 20, mais ça met la ville en émoi pendant des semaines et des semaines avant, et puis des semaines et des semaines après, et c'est vraiment à l'événement. Et en fait, on est ressorti de là, on a pris le train pour rentrer à Paris, et le train pour aller à Paris, c'est très très long, et on était tellement enchantés que on s'est dit, bah en fait, c'est une ville de fantaisie, on pourrait complètement imaginer... une Sienne un peu plus grande, un petit peu plus fantasmée, une Sienne médiévale, dans laquelle il se passerait plein de choses. Et c'est un peu comme ça qu'est née la ville de Gemina, dont il est question dans la trilogie Capitale du Sud, dont Le sang de la cité est le premier tome.
Alors, justement, il y a déjà plein de petites questions que j'ai pour éclairer ce que tu nous exposes. Mais une des premières questions que j'ai, c'est que c'est assez atypique de faire un projet d'écriture à plusieurs, mais il y a différentes manières d'écrire à plusieurs, et vous avez une manière qui est très particulière. Est-ce que, Claire, tu peux nous dire, ça va être l'occasion de donner des éléments sur la forme de cette double trilogie.
C'est vrai que, usuellement, quand on écrit... Quand deux auteurs collaborent, ça donne ce qu'on appelle l'écriture à quatre mains, c'est-à-dire qu'on se met à deux sur un roman. Alors après, chacun selon sa méthode, en se partageant qui fait les plans, qui fait les personnages. Donc vraiment, chacun... Nous, c'est pas comme ça qu'on a choisi de travailler, parce qu'on n'écrit pas du tout de la même manière et on n'arrivait pas à trouver une organisation qui soit tout à fait satisfaisante. Donc nous, notre idée, c'était plus de s'inspirer de ce qui peut se faire en bande dessinée, notamment dans l'univers des comics états-uniens, c'est-à-dire un univers partagé. On a cet univers qu'on a créé où il y a ces deux villes, Gemina de Haven, la capitale du Sud, la capitale du Nord. Mais chacun d'entre nous, on écrit une histoire, une trilogie qui se passe chacun dans une ville différente, avec un narrateur différent. Mais on sait qu'on est dans le même monde, on sait qu'on est à la même époque. On a des personnages qui vont passer d'une ville à l'autre, des personnages secondaires. On a des événements dans une ville qui vont avoir des répercussions dans l'autre ville. Donc chaque histoire peut vraiment être lue indépendamment, mais il y a toujours des petites allusions à ce qui se passe dans l'autre ville. Alors là, effectivement, les deux premiers de chaque trilogie sont sortis. Enfin, le deuxième de Capitale du Nord est sur le point de sortir. Et évidemment, l'idée, c'est que les intrigues finissent par se croiser dans les troisièmes tomes.
Donc les deux personnages narrateurs finissent par se rencontrer et discuter ensemble.
Donc les personnages principaux d'une des trilogies deviennent des personnages secondaires de l'autre et vice-versa.
Alors, tu as mentionné que ça s'inspirait un peu du fonctionnement de publication et de conception des bandes dessinées américaines. Mmh. C'est sur deux caractéristiques, en fait, c'est-à-dire l'univers partagé, qu'on peut voir, par exemple, ces jours-ci dans les films Marvel, où, en fait, ces films sont faits par des auteurs différents, des réalisateurs, des scénaristes différents, mais sont intégrés dans une sorte de grande odyssée collective. Là, on a cette double trilogie, donc la capitale du sud de Guillaume, la capitale du nord de Claire, qui sont dans l'univers de la Tour de Garde, mais avec des enjeux dramatiques et des enjeux esthétiques qui ne sont pas les mêmes. Mais la deuxième caractéristique, c'est que c'est un récit feuilletonnant. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus clair?
Oui, nous, on voulait prendre le modèle du feuilleton parce qu'on savait qu'on allait publier des épisodes, en fait, en quelque sorte, puisqu'on a deux trilogies, ça fait six livres en tout. Donc, la question qu'on s'est posée au bout d'un moment, c'est comment on va pouvoir rythmer ça pour que ce soit intéressant pour le lecteur et qu'il ait envie de continuer un peu l'aventure avec nous. Donc, l'idée, ça a vraiment été, avec David, de publier en alternance chaque tome. Un tome de Capitale du Sud, un tome de Capitale du Nord, le tome suivant de Capitale du Sud, le tome suivant de Capitale du Nord. De façon à réduire l'intervalle de temps entre chaque volume. Donc, ça fait un nouveau livre tous les 6 mois. Et surtout, de jouer avec, on va dire, les procédés narratifs aussi du feuilleton, le suspense,
Le cliffhanger de
le
fin de
cliffhanger de
volume.
fin, des choses comme ça.
Alors, tu viens de dire cliffhanger, c'est-à-dire le rebondissement final.
Le rebondissement final, tout à fait.
Voilà. Et alors, pendant qu'on est dans les mots qui ne sont peut-être pas des mots familiers pour certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs, il y a un mot que Guillaume, tu as prononcé tout à l'heure et je vais te demander de le préciser. Tu as parlé de fantaisie. Qu'est-ce que la fantaisie?
Ah, bon courage!
Est-ce que vous avez 2 heures et demie devant vous?
Alors, je précise quand même que nous vous rencontrons aujourd'hui et nous enregistrons notre discussion alors que ce sont les Journées du patrimoine. Que cette année, les Journées du patrimoine ont une thématique, à savoir le patrimoine durable. Et on oublie souvent que le patrimoine le plus durable, c'est le patrimoine immatériel. Et parmi dans le patrimoine immatériel, il y a donc le patrimoine littéraire. Que la fantaisie est un lourd patrimoine littéraire. Et là, j'ai juste dit ça pour que tu aies le temps de trouver des idées. Je peux continuer longtemps, mais
je peux parler très très longtemps aussi.
Parce que je pensais que je vois que tu me regardes
Non,
alors
mais
que le but c'était de te faire gagner du temps. Donc,
non, mais j'attendais que tu aies fini pour me lancer parce
et
que
ben vas-y, 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 vas-y.
Bon, alors, la fantaisie, c'est un genre littéraire, effectivement, comme l'a dit David. C'est un genre littéraire dont on estime à peu près les débuts à la fin du 19e siècle. Notamment avec les romans de William Morris, publiés aux Forges de Vulcain, faut-il le préciser, qui en fait, donc fin du 19e, c'est ça, donc écrivain anglais, qui a commencé par à écrire des romans de fantasy, donc c'est-à-dire des romans qui se passent dans un univers merveilleux. Il peut y avoir un peu. Donc l'univers en lui-même est merveilleux, c'est-à-dire que c'est pas étonnant quand tout à coup déboule une créature que personne n'imagine. À opposer au fantastique, qui lui, quand un phénomène fantastique se produit, les personnages sont surpris parce que ça n'entre pas dans les règles du monde. La fantaisie, la règle, c'est que la magie est possible, et tout le monde le sait, elle est acquise et entendue. Après William Morris, bon, il y a eu effectivement tout un mouvement des pulps américains avec Conan le Barbare au début du XXe siècle notamment, donc qui en a fait un genre très très populaire, aux États-Unis en tout cas. Et ensuite, il y a eu, donc, dans les années 50-60, la consécration avec Tolkien, hein, qui est bien entendu arrivé avec d'abord Bilbo le Hobbit, puis Le Seigneur des Anneaux, qui dans les années 60 a été repris par toute la communauté hippie aux États-Unis, et qui en a fait le succès que l'on sait. D'ailleurs, il y a eu des films qui ont été des succès planétaires, il y a une série qui bat tous les records, en tout cas en termes de production aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est des audiences, mais qui vient de paraître sur Les Anneaux de Pouvoir, enfin, qui est en cours de diffusion. Donc, il y a effectivement, c'est un véritable engouement sur la fantaisie. Et d'ailleurs, je discutais avec une éditrice de fantaisie pas plus tard que cette semaine, qui me disait, mais en fait, quand on y réfléchit, les plus gros succès de la littérature mondiale de ces dernières années, que sont, enfin depuis 50 ans, que sont en gros le premier, c'est Harry Potter, le deuxième, c'est Le Seigneur des Anneaux, dans les deux cas, c'est de la fantaisie.
Mais alors. Avant d'aller plus loin dans cette discussion, je me tourne vers Claire. Est-ce que pour toi, Claire, tes romans, ces romans, je parle que de la double trilogie de la Tour de Garde, est-ce que ça relève de la fantaisie?
Oui, je pense effectivement. Enfin, il y a un côté. Après, on va dire que ça montre les atours de la fantaisie parce qu'on est dans des villes qui sont médiévales ou médiévalisantes en tout cas, ou inspirées de la Renaissance, enfin, qui sont dans des mondes imaginaires. Donc effectivement, même si on va dire que les décors ressemblent à de la Renaissance, c'est pas la Renaissance qu'on connaît, c'est pas des pays d'Europe, c'est pas voilà, c'est vraiment des lieux qui sont imaginaires. Après, moi j'avoue, en tout cas, enfin, on peut en discuter, c'est assez différent dans le sud et dans le nord, mais je dirais que moi je puise plus dans des artifices narratifs du fantastique, en fait, dans la mesure où l'élément surnaturel, il est vu comme quelque chose d'inquiétant et d'extérieur, donc de quelque chose d'étonnant quand même. Moi, mon inspiration, c'est plus les romans d'apprentissage, les romans historiques à la rigueur. Et effectivement, oui, effectivement, de toute façon, dans les romans fantasy, il y a souvent ce schéma du roman d'apprentissage avec le jeune héros qui est lancé dans le vaste monde et qui va enquêter sur une interrogation qu'on peut avoir dans son monde et qui est liée à la nature magique du monde. Là, effectivement, cette nature magique, elle n'est pas clairement acceptée comme ça peut être le cas dans des romans de fantasy type Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai hâte, dans ce que j'écris, que ce soit la tour de garde ou un long voyage, il n'y a pas de créature fantastique, par exemple. Si c'est une fantaisie, c'est une fantaisie où il n'y a pas de dragon, c'est une fantaisie où il n'y a pas de griffon, où il n'y a pas de nain ou d'elfe comme chez Tolkien. Voilà, je préfère me situer un peu dans un entre-deux au niveau des genres, et peut-être pas forcément, je peut-être pas forcément dans la définition officielle, je ne sais pas, de la fantaisie.
Mais alors justement, ça m'amène un tout petit excursus, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, tu as commencé à dévoiler un tout petit peu ton patrimoine littéraire. C'est quoi ton patrimoine littéraire en tant que romancière?
Ce genre de questions où on se réveille la nuit d'après en se disant, ah, j'ai oublié de citer un tel et un tel et tout. En fait, je suis très éclectique dans mes lectures, donc je ne suis pas une lectrice exclusive de science-fiction ou de fantasy ou de littérature générale ou de polar. Je lis un peu de tout. Déjà, ce que j'écris, ça ne ressemble pas du tout à ce que je publie en tant qu'éditrice. Dans notre vie avec mon autre casquette. Moi, j'aime bien me nourrir à plein de choses différentes, en fait. Je lis beaucoup de littérature étrangère, je lis un peu plus de littérature française qu'à une certaine époque, contemporaine, je veux dire. Je me suis remis à lire de l'imaginaire, ce que je n'avais pas fait pendant quelques années. J'aime bien me nourrir à différentes sources, en fait.
Il y a un terme que tu viens juste de mentionner qui mérite une précision, parce que je me rends compte que c'est un terme que dans l'édition on utilise beaucoup, mais qui passionne peut-être pas tout le monde. C'est le terme de littérature d'imaginaire, ou voilà, puisque en fait une fois un lecteur m'a écrit en disant, mais vous parlez de littérature d'imaginaire, mais toute littérature est d'imaginaire. Et en fait, non, toute littérature n'est pas
Si tu veux, je peux
d'imaginaire.
parler de littérature non mimétique, mais ça va pas nous aider.
Non. Non, mais pour dire les choses rapidement,
Oui,
essayez.
c'est pour moi ce que j'appelle littérature d'imaginaire, et ce qui est appelé, enfin, dans l'édition, c'est tout ce qui est science-fiction, fantasy, quoi, fantastique. Mais après, pour moi, c'est des, enfin, ces catégories, c'est des outils, ça sert un peu à s'aider, mais en gros, de toute façon, enfin, il y a quand même de moins en moins de textes qui correspondent à ces définitions canoniques-là. Et justement, là où la littérature devient intéressante, c'est quand elle est sur les marges entre ces différentes catégories, quoi.
Mais moi, c'est-à-dire que dans ta présentation, tu distingues bien ton travail d'éditrice et ton travail d'autrice, parce qu'effectivement, tes romans n'auraient pas du tout leur place dans ta maison d'édition. Je vois, moi, une très profonde parenté structurelle entre tes deux travaux. C'est que dans les deux cas, il y a ce goût pour l'inventivité qui vient avec l'hybridation. Puisque finalement, beaucoup de romans que tu as édités chez les éditions Asphalte, c'est des romans qui sont pas tout à fait du polar, pas tout à fait de la littérature
Qui
générale.
sont dans ces marges-là, en fait,
Voilà.
voilà.
Sauf qu'en fait, l'hybridation que tu fais chez Asphalte, parfois, c'est entre la littérature générale et la littérature noire ou le polar. Tandis que ce qu'on va trouver aux éditions Forges de Vulcain, souvent, c'est l'hybridation entre la littérature générale et de la littérature de l'imaginaire.
On a pas mal d'hybridation avec la littérature de l'imaginaire aussi chez Asphalte. On a publié un roman qui est un polar dans un univers de science-fiction, par exemple. On a publié un très beau roman d'une Canadienne qui est une sorte de roman post-apocalyptique qui parle un peu d'angoisse
Tu peux
climatique.
citer les titres, hein.
Oui, c'est l'avenir de Catherine Leroux. Enfin, oui, moi j'aime bien avoir une espèce de grosse marmite, en fait, où finalement, Il y a souvent des débats sur est-ce que tel roman c'est la science-fiction, est-ce que tel roman c'est la fantasy. Moi, j'aime pas dire que les choses. Enfin, c'en est quoi. Plutôt, ça en a en fait. Que le roman c'est une grande marmite, on va mettre de la science-fiction dedans, on va mettre du polar, on va mettre des éléments sociaux, on va mettre de l'histoire, on va mettre. Bon, pour moi, c'est plus des ingrédients finalement qu'une petite étiquette qu'on colle sur les romans.
Voilà, l'impression que j'ai, c'est que c'est parfois pratique, mais il ne faut pas que ça devienne fondamental. Et que finalement, sur les dernières années, ce qui est intéressant au cinéma, dans le roman, dans les séries télé, c'est que finalement, quand une œuvre est bonne, elle arrive à complètement transcender ce type de choses. Par exemple, alors je ne sais pas si c'est mon interprétation, mais L'Anomalie, qui était le Goncourt d'il y a 2 ans, c'est un roman de science-fiction d'une certaine façon, mais il a quand même remporté le Goncourt et il est en passe de devenir le plus grand Goncourt. On ne parle pas
En termes de
d'esthétique, on parle de
nombre,
vente. Hein,
enfin, moi
voilà,
j'ai beaucoup
c'est...
aimé, je le dis en passant.
Oui, il est très bien.
Et alors, Guillaume, moi, je te pose la même question sur quel est toi ton patrimoine littéraire?
Bah, alors, un petit peu différent de Claire, évidemment, mais avec un peu la même approche, qui est de dire que j'aime être quand même assez éclectique dans mes lectures. Je pense que Le sang de la cité, la capitale du Sud, dans son ensemble, c'est effectivement déjà une espèce d'hymne à ce que moi je lisais quand j'étais vraiment jeune adulte et adolescent, c'est-à-dire les romans d'aventure du 19e siècle de KPDP, les Alexandre Dumas, les Sir Walter Scott, etc. Donc il y a un petit côté comme ça, KPDP, dans Le sang de la cité que moi je voulais mettre, mais quelque part je suis aussi lecteur de. Bah, d'un peu tout ça, voilà, de tout, un peu comme Claire, on aime un peu souvent les mêmes bouquins d'ailleurs. Ces romans qui sont un peu à la frontière des genres, qui vont chercher un petit peu de science-fiction, d'imaginaire, par-ci par-là. On est aussi tous les deux très très fans d'une autrice anglaise qui s'appelle Nina Allan, qui navigue, voilà, vraiment entre les genres. On ne sait jamais trop si c'est de la science-fiction, si c'est du fantastique, mais qui est classée en littérature.
Yoda.
Il y en a.
C'est pas est-ce que ça en
Voilà.
est, c'est Yoda.
Moi, j'ai tendance à penser, mais c'est un peu ma vision des choses aussi, voilà, comme un peu la grande marmite, c'est même plus la cuisine, en fait. Un roman, c'est un peu de la cuisine, où on peut prendre des ingrédients d'un côté, des méthodes de cuisson de l'autre, et faire une espèce de mix de tout ça. Et il faut savoir prendre un peu partout pour avoir vraiment quelque chose d'original.
En plus, je pense, et je promets que je serai très court là-dessus, surtout que mes deux camarades ont déjà entendu pérorer sur ce sujet à plusieurs reprises, que la distinction entre littérature générale et littérature de l'imaginaire, en fait, elle est construite historiquement, elle arrive à la fin du 19e siècle, elle répond à des questions sociales et pas nécessairement des questions esthétiques. Et en fait, je pense qu'on arrive à une nouvelle période de l'histoire de la littérature où on repart dans un sens différent, c'est-à-dire la porosité entre ces littératures apparaît. Donc on recrée une forme de comment dire, une vague créative autour de ces mondes-là. Donc voilà.
Mais sachant que tout de même, si je peux préciser, j'imagine que si vous allez dans la médiathèque ici, il doit y avoir un rayon qui s'intitule peut-être imaginaire, peut-être
Alors nous,
fantasy, science-fiction.
c'est resté science-fiction.
C'est resté
Enfin, y a
science-fiction.
eu une discussion autour en se disant peut-être mettre plutôt imaginaire, parce que c'est vrai que le terme SF peut faire peur ou les gens appréhendent parce que tout de suite SF, ils pensent vaisseau spatial, Star Wars, la quête de l'espace. Et on leur dit, mais non, en fait, il n'y a pas que ça. Vous avez par exemple la capitale du Nord et la capitale du Sud. Après, vous avez aussi du fantastique avec un côté un peu horreur, thriller. Enfin, vous pouvez trouver plein de choses. Et c'est vrai que le fait d'appeler science-fiction, bah, des fois, ça freine. Et puis même nous, après, en tant que bibliothécaire, quand on achète des romans, on essaye, nous, de mettre des genres, parce qu'on sait que nos usagers, ils sont plus de ce genre-ci, ils sont plus de ce genre-là. Et donc, on essaye de les aiguiller. Donc c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Mais en même temps, le fait d'avoir cette mixité, ça peut permettre aussi de leur dire, mais en fait, vous voyez ce que vous disiez, c'est de la fantaisie. Voilà.
Mais c'est vrai que du coup, pour les lecteurs aussi, c'est quand même bien d'avoir ces grandes étiquettes qui
Ça les
permettent de
aide.
s'y retrouver un tout petit peu. Donc il faut bien un moment que nous, on décide qu'on aille, enfin, surtout toi, en tant qu'éditeur, tu décides que le roman soit classé quelque part en fantasy pour que les amateurs de fantasy puissent diriger un peu automatiquement vers ce type, vers nos romans quand ils entrent dans une librairie ou dans une médiathèque. Mais effectivement, voilà, on aime de plus en plus, comme tu dis, c'est de plus en plus difficile parce qu'on va toujours chercher, flirter un peu avec la littérature dans l'imaginaire, enfin dans la fantaisie, et la littérature qu'on appelle blanche va de temps en temps flirter avec la science-fiction et avec le fantastique.
Et juste un tout petit point de détail, alors moi c'est une de mes marottes, mais parce que c'est une marotte professionnelle, c'est peut-être pas passionnant pour tout le monde, mais je note quand même quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est qu'en fait quand un roman rentre dans la conversation collective, il prend une place, généralement il ne bouge pas de sa place. Par exemple, des textes comme certains textes de Mérimée, comme le Orla de Maupassant, comme le Dracula de Bram Stoker, comme... Dr. Jekyll et Mr. Hyde, comme
Einstein.
Le portrait de Dorian Gray, comme Frankenstein, voilà, sont classés en littérature générale parce que à l'époque, les distinctions n'existaient pas et ils ont gardé cette place alors qu'en fait, en termes de régime esthétique, ils appartiennent bien à l'imaginaire, mais ça présenterait aucun intérêt de les sortir de l'imaginaire, sauf pour tendre un piège aux lectrices et aux lecteurs et leur montrer, en fait, vous avez toujours lu de l'imaginaire, mais vous n'appeliez pas ça de l'imaginaire. Je promets que je vais arrêter là parce que sinon ça va tourner au colloque en Sorbonne et ça sera peut-être un peu long. Par contre, je pense à quelque chose, c'est que dans la fantasy, il y a quelque chose qui, d'une certaine façon, la science-fiction regarde vers l'avenir. Là, le fantastique, on ne sait pas exactement où ça regarde parfois.
Dans l'abîme, hein.
Dans la vie,
Et parfois
voilà.
l'abîme regarde.
C'est ça. Et l'abîme vous regarde en retour. La fantaisie, on a l'impression que ça lorgne vers un passé imaginaire, puisque c'est du faux médiéval, de la fausse Renaissance, voire parfois du faux 18e siècle, comme chez les époux Rémy, qui sont en fait, pour moi, les époux Rémy, c'est un peu vos grands précurseurs, puisqu'on parlait de patrimoine littéraire. Ah non, tu remets tes lunettes, je
Oui, je
pensais
remets
que
mes lunettes,
tu.
non. Non, j'aime beaucoup ce que font les
Ah,
Rémy, il n'y a
je
pas
sais, je
de.
sais. Non, mais je pensais que tu commençais.
pas du tout, je n'étais pas en train de soupirer ou quoi que ce
Non,
soit,
non.
donc désolée. Bien
Non, non.
sûr.
Non, mais ce que je trouve. La question qui me vient, c'est que à la fin du 19e siècle, quand la fantaisie apparaît, il y a comment dire, une fascination pour le Moyen-Âge, parce que c'est un moyen pour eux d'échapper à l'ère industrielle. Est-ce que vous pensez que le retour de la fantaisie qu'on voit depuis un certain temps, tout à l'heure Guillaume, tu parlais du succès à la télévision de il y a Les Anneaux du Pouvoir, il y a Willow qui revient aussi, il y a La Roue du Temps l'an dernier, il y a Le Trône de Fer, donc il y a quand même beaucoup de choses, House of Dragons, pardon. Donc est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un retour du Moyen-Âge aujourd'hui ou
Pas du
Non, c'est un
Moyen-Âge.
retour du Moyen-Âge. Non, je pense que juste on est un peu dans la copie du Tolkien et du coup, il y a un côté de la fantaisie, il faut que ce soit médiévalisant, il faut que les gens soient en armure, il faut que. Ouais, je pense que c'est aussi des marqueurs assez reconnaissables de la fantaisie et qu'effectivement, bah, c'est des attentes qu'on a par rapport au genre. On est content de voir des batailles de type en armure avec des dragons qui volent derrière, quoi. C'est pas tellement le fait de se
Y a
tourner
un
vers le
côté un peu
Moyen-Âge que le
régressif.
fait de, bah, de d'étendre le domaine de la fantaisie en
Oui, c'est
reprenant
ça.
des éléments
Et
types.
après, la fantaisie, enfin, ça sert un cadre de Moyen-Âge, mais ça parle pas forcément de Moyen-Âge. En
Au
l'occurrence,
contraire,
au contraire,
ouais.
parfois, on essaye de parler de sujets très très actuels, en les habillant sous les atours du Moyen-Âge. Enfin, quelque part, c'est un peu ce que, enfin, c'est un peu ce que faisait Game of Thrones. Enfin, peut-être pas Game of Thrones, c'est pas le meilleur exemple, là. Mais.
Après, depuis que on va dire, le pôle de production de la fantasy s'est déplacé aux États-Unis, c'est sûr que ce décor médiévalisant est très limite carton-pâte, parce qu'effectivement, c'est quand même un pays qui n'a pas forcément justement cet héritage-là, que ce soit littéraire ou historique. Et donc, du coup, qui crée une sorte de Moyen-Âge parallèle et constant qui est réutilisé via des jeux de rôle, via des jeux de vidéo, via des romans, via tout un tas de médias en fait qui
Qui
font
n'est plus, qui
perdurer
n'est
cette
pas le
espèce
vrai
de et
Moyen-Âge
qui
en
n'est pas du tout
réalité.
le vrai Moyen-Âge et peu importe d'ailleurs ça ne demande pas d'être le vrai Moyen-Âge c'est pas des romans historiques mais
Mais surtout même,
effectivement
tout à l'heure, Guillaume a cité Conan le Barbare, qui est la grande œuvre de fantasy américaine du début du XXe siècle. Elle a une caractéristique aussi qu'on oublie, c'est qu'elle ne fait pas signe vers le Moyen-Âge.
ah, pas du tout
Puisque le monde de Conan le Barbare, en fait, c'est 4000 avant Jésus-Christ, en fait. Donc, on est dans le fantasme beaucoup plus complet. Mais alors, tu as quand même mentionné un petit truc sur le fait que. Alors, je note juste, et après ma question, je note juste, donc, comment dire, le fantasme médiévalisant, c'est quelque chose de la naissance de la fantaisie, mais qui n'est plus un moteur de la fantaisie, ou qui n'est pas le moteur principal, qui peut être un moteur secondaire
Peut l'être
actuellement.
dans
Peut-être
certains
qu'avant c'était
auteurs.
le fantasme médiéval et maintenant c'est le fantasme
Le
médiévalisant.
fantasme
C'est ça la
de...
différence en
Oui,
fait,
c'est
quoi.
ça. C'est du fantasme médiéval vers le fantasme médiévalisant. Là, ça tourne vraiment au colloque de la Sorbonne. Voilà. Mais tu as mentionné quelque chose, Guillaume. C'est que parfois on peut faire passer des messages politiques dans les romans. Et quand je marchais
Je te vois venir.
vers ici, vers cette rencontre, je me disais qu'effectivement, dans les littératures de genre, il y a une tradition, une sorte de tension entre trois positions qui vont être l'écrivain qui décide qu'il n'est que dans le divertissement pur et qui va même explicitement dire qu'il n'y a aucun propos, aucune valeur dans ces textes. Le pôle complètement opposé de l'écrivain qui va dire « Je suis là pour faire passer des messages, mais je ne peux pas les faire passer directement, explicitement, donc je passe par le voile d'ignorance que permet l'imaginaire. » Et la position médiane qui va être de dire « Je fais passer des messages, mais ils sont enveloppés de manière à être plus subtil ou plus ambivalent peut-être. Alors je donne des exemples. Par exemple, Tolkien a toujours dit qu'il ne faisait passer aucun message, mais rétrospectivement, on lui attribue certains types de valeurs, hein, c'est-à-dire le respect de la nature, le conservatisme écologique. Tolkien, c'est quelqu'un qui est très marqué par la Première Guerre mondiale où il a perdu tous ses amis au combat, et donc cette idée que l'amitié d'un petit groupe, c'est une unité politique. Donc voilà, il y a des valeurs rétrospectives, mais que lui n'a pas explicité. Il y a Ursula K. Le Guin, la grande romancière de science-fiction et fantasy américaine, qui dit qu'en fait elle crée des situations et qu'elle voit comment les situations se développent, mais qu'elle déteste la littérature à message. Donc, on revient vers vous. Comment vous vous situez dans votre processus d'écriture sur comment vous interagissez avec ces différentes positions que le patrimoine a pu prendre par rapport à la question politique? Claire.
Bah d'habitude, ce que je réponds à ce type de question, parce que figure-toi que ce n'est pas la première fois
Oui.
qu'on me la pose, étonnamment, c'est que même si effectivement on ne prend pas la plume en disant je vais écrire un roman de fantasy qui va parler de tel thème politique, on est quand même plus ou moins animé par nos propres valeurs et notre propre éthique, on va dire. Quand on écrit, forcément, il y a des choses qui transparaissent. Après,
Et
oui,
j'oserais ajouter,
ose,
excuse-moi,
ose.
j'ose, même quand on est, quand un auteur, moi je suis convaincu que même quand un auteur dit que lui il est dans le divertissement pur, il va forcément mettre une part de lui-même dans ce qu'il écrit. Donc il ne sera jamais complètement dans le divertissement pur.
Ça dit, juste en
C'était la fin de la
passant,
parenthèse.
il y a un romancier des forges, Romain Ternaux, qui est celui qui a le plus théorisé le fait qu'il n'a rien à dire, il ne veut pas du tout intervenir politiquement, il déteste la littérature à message. Ça crée des romans qui sont extrêmement punk et destructeurs, mais en soi, le punk, c'est
C'est un
un message
message.
politique,
C'est
en
un
fait.
message politique, voilà.
Romain Ternaux, on pourrait dire, c'est l'écrivain du nihilisme heureux, quoi. Donc,
Mais moi,
Claire.
ce qui m'intéresse, c'est de reprendre justement cette espèce de, enfin, de décor et de trope en fait de la fantaisie pour un peu les subvertir et aussi, enfin, il y a un côté, ah oui, l'escapisme de la fantaisie, c'est merveilleux, on est tous contents d'avoir des guerriers en armure avec des dragons qui volent derrière, et oui, je suis moi aussi contente d'avoir ça. Mais d'un certain côté, j'aime bien aussi remettre en question ces univers médiévalisants qui sont très stables dans le temps, qui n'évoluent pas, où il n'y a pas la notion de progrès. Bah d'ailleurs, on a fait la remarque que House of Dragons, la préquelle de Game of Thrones, que finalement, quand on l'a regardée, on a l'impression que c'est la même époque que Game of Thrones, parce qu'en fait, comme si l'univers ne.
Alors qu'il s'est passé
En
200 ans
1000 ans ou
normalement entre
200,
les
je ne sais
deux.
pas, que rien ne changeait dans cet univers-là. Voilà, moi j'ai créé une ville où effectivement le progrès était un but en soi, un objectif, quelque chose vu comme positif. Je trouve aussi que dans les univers de fantasy, il y a vraiment des choses qu'on accepte complètement, véhément, en disant c'est normal, c'est. Le héros, fils de forgeron, il y a des vendeurs de rue, des trucs comme ça. Et enfin, Moi, je suis désolée, mais on mettrait dans un roman qui se passe à l'ère contemporaine des enfants qui travaillent, tout le monde dirait que c'était un peu moyen, quoi. Et là, effectivement, c'est des choses qu'on accepte complètement dans les romans de fantasy. Donc là, j'aime aussi, bah, justement, mettre en scène des personnages bah, qui prennent conscience que c'est pas normal, par exemple. Et effectivement, du coup, bah, c'est un regard bah, contemporain, mais comme c'est pas une période passée, j'ai tout à fait le droit, quoi. Donc, et oui, effectivement, j'en profite bah, pour offrir, je pense, un regard un peu critique qui est pas... destructeur de la fantasy, à savoir arrêter de regarder de la fantasy ou de lire de la fantasy, vous voyez bien que c'est un genre réactionnaire et tout, c'est pas du tout mon discours, mais j'aime bien aussi avoir un petit pas de côté et regarder ça avec un petit œil critique quand même.
Oui, à certains égards, vous êtes plus près de l'Uchronie que de la fantasy, hein. C'est-à-dire que est-ce que attention, sauf que normalement dans une Uchronie,
le colloque revient.
Pardon ?
Le colloque revient.
Ah oui, le colloque revient. Okay, d'accord. Alors c'est très dur de commenter sa propre œuvre. Il faut voir que vos romans ont chacun gagné beaucoup de prix. Cette double trilogie a déjà gagné 7 grands prix nationaux et continue à en gagner. Donc d'une certaine façon. Ça veut dire que beaucoup de lecteurs, lectrices fantasy lui ont donné une importance et la donnent comme une forme de petite référence pour l'instant. Je sens que vous n'allez pas aimer ce type de remarques.
C'est un peu tôt pour parler de référence.
Oui, c'est un peu
tôt.
Non, mais est-ce que, par exemple, pour commenter votre œuvre, est-ce que par rapport à cette fantasy anglo-saxonne, qui est en fait une fantasy en grande partie américaine, il y a quelque chose... qui vous semble très spécifique dans votre œuvre et très lié au fait que vous êtes né en région parisienne, souviens-toi, il ne faut pas dire où, ou à Aix-en-Provence. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'on écrit sur ce qu'on a en propre, de là où on vient, est-ce que vous avez l'impression que par la force des choses, par votre histoire, ces textes finissent par apporter quelque chose de très spécifique par rapport à la fantasy ?
Il se trouve qu'on est dans la médiathèque de l'Europe,
oui.
Si je ne me trompe pas. Et en l'occurrence, ce n'était pas quelque chose qu'on avait voulu, ce n'était pas de qu'il y ait des charges ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'effectivement, dans la tour de garde, que ce soit la capitale du Sud ou la capitale du Nord, il y a quelque chose qui est très ancré dans l'histoire et la culture européenne, en fait. Du fait qu'on a cette capitale du Sud qui est très inspirée de l'Italie de la Renaissance, on a cette capitale du Nord qui est très inspirée des Pays-Bas du siècle d'or. Et effectivement, c'est des environnements culturels, scientifiques, enfin, des idiosyncrasies, en fait, qui sont très européennes. Où effectivement, je pense que la fantasy aux États-Unis peut effectivement s'en inspirer, essayer de faire de la fantasy vénitienne ou des choses comme ça. D'un certain côté, effectivement, des auteurs européens ont plus baigné dedans, quoi. Après, ça ne veut pas dire que c'est forcément meilleur, mais effectivement, c'est quelque chose de très propre à... notre culture, à des légendes qu'on connaît, des choses comme ça. Enfin,
vous donner un petit exemple pour préciser. Moi, je pense à un auteur qui est Scott Lynch, c'est ça, pour les gentlemen, les salauds gentilhommes. Qui est un auteur qui a fait une fantasy, qui a fait un cycle de fantasy en fait qui se passe dans une ville très inspirée de Venise, donc très très italienne où tout le monde boit du brandy en fait. Donc il y a une espèce de
à la lecture, vaste... on est du brandy.
C'est un auteur américain et en gros c'est ce vaste pays qui est l'Europe où on mélange un petit peu tout. Après c'est complètement possible, on est dans l'univers de tous les possibles puisqu'on est dans la fantasy. Mais quelque part nous, bah en tant que lecteurs européens, on se dit bah ouais mais enfin Venise c'est pas tout à fait l'endroit où on boit du brandy, donc bah quand on fait quand la capitale du Sud qui est pour le coup une fantasy beaucoup plus inspirée de l'Italie du Nord d'une manière générale, du sud de la France et un peu de la Corse, et ben moi je vais mettre des recettes de cuisine parce qu'il y a beaucoup de nourriture qui vont être plutôt inspirées vraiment de vraies recettes d'Italie du Nord, où quand on boit de l'alcool on boit du vin parce que c'est ce qu'on boit en Italie du Nord, pas du brandy. Donc il y a un peu ce côté bah voilà, on reclasse un petit peu sans vouloir dire nous au moins on le fait bien, mais juste histoire de dire que bah
non, ça parle peut-être plus à des lecteurs,
ça va plus parler
du
à des
fait
lecteurs,
que ça va lui rappeler bah sa propre expérience, s'il a fait un voyage en Italie ou des films qu'il a pu voir ou des histoires qu'il a pu entendre sur tel ou tel endroit. Et pour le coup, enfin, on n'est pas les seuls. Je pensais à un auteur comme alors je vais pas pouvoir prononcer son nom parce que Andrei Zaprojski, l'auteur du Sorceleur.
L'auteur du sorceleur
qui est polonais.
Voilà, qui est polonais et effectivement qui a une fantasy qui est très inspirée de l'histoire de l'Europe centrale, c'est passionnant, où il y a beaucoup de mythes qui viennent d'Europe centrale, beaucoup de créatures mythiques qui viennent justement de cette région-là, et du coup ça donne une mythologie et un monde qui est extrêmement riche. Et effectivement du coup ça a été décliné en jeux vidéo, en romans, en... en série, voilà. Et effectivement, je pense que ça a plu, y compris aux États-Unis, parce que cet univers est extrêmement cohérent et que c'était un univers et une mythologie que peut-être des lecteurs états-uniens connaissaient moins, en fait, et ont été séduits justement par cette nouveauté et cette précision, quoi.
Oui, mais c'est vrai que c'est une très très bonne comparaison, cette comparaison avec Le Sorceleur, qui a aussi été adapté, qui est sur Netflix, parce que on sent que la création d'œuvres, ça repose à la fois par se distinguer des œuvres existantes, mais ne pas être absorbé par le dialogue avec les autres œuvres, mais revenir à quelque chose de très simple, de là où on est situé. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas il y a une sorte de double dialogue, dialogue avec les œuvres existantes et dialogue avec la situation concrète qu'on vit dans le monde réel.
Et en l'occurrence, pour raccrocher les chariots avec la question que tu posais avant sur est-ce qu'on parle du monde d'aujourd'hui, est-ce qu'on parle du monde qu'on connaît quand on écrit de la fantasy, dans le cas du sorceleur, c'est ça, c'est qu'effectivement le sorceleur, ça se passe dans, je ne sais pas exactement, au Moyen-Âge peut-être, quelque chose comme ça.
C'est une sorte de Moyen-Âge. Hein.
Mais concrètement, ça parle de la chute de l'URSS en fait. Et ça, effectivement, il faut un auteur de cette région-là du monde pour en parler avec autant d'acuité, je dirais.
Mais alors...
Dans un roman de fantasy, enfin, dans une série de fantasy.
Mais je pense aussi à quelque chose, à une autre référence littéraire, et je ne sais pas si c'est la vôtre, mais c'est vrai que quand on voit cette dynamique entre les deux trilogies, et avec des villes très différentes, mais qui produisent des individus très différents, il y a un petit côté du retour de la géographie de Stendhal, c'est-à-dire la géographie des humeurs, parce que c'est très présent chez Stendhal, c'est-à-dire le froid au nord, les gens chaleureux au sud. Est-ce que la chartreuse de Parme...
Pas trop d'essentialisme non plus, quoi.
Non, ok. Sur autre chose, c'est que depuis tout à l'heure, on tourne autour des romans pour une raison très très simple, c'est que je trouve toujours très embarrassant dans les rencontres littéraires, c'est qu'il y a des gens qui ont lu les romans, et donc ils peuvent avoir des questions très précises, et des gens qui ne les ont pas lus, et c'est toujours gênant si on raconte trop, si le discours des auteurs qu'ils prononçaient là va se substituer à l'expérience de lecture. L'idée, c'est de vous donner des clés, de faire fonctionner au mieux votre expérience de lecture. Mais on va quand même parler un tout petit peu des personnages. Moi, le personnage principal de Guillaume s'appelle Nox. Il me fait un peu penser à Fabrice Del Dongo. Est-ce que c'est le héros de la Chartreuse de Parme? Parle-nous de Nox. Qui est Nox?
Alors, je vais mieux parler de Nox que de la Chartreuse de Parme que de faire.
Vraiment, t'es pas d'ambiance
que
l'on peut dire.
Il y a vraiment 25 ans. Donc effectivement, Nox, c'est un personnage donc, qui évolue dans cette ville qui est très inspirée de Sienne, comme je le disais tout à l'heure. Qui est né en fait dans cette ville, qui est le produit quelque part de cette ville, aussi bien symboliquement que véritablement. Et en fait, il incarne cette ville en étant tout simplement commis d'épicerie. Donc en tant que commis d'épicerie, son métier c'est de livrer en fait des denrées et des bouteilles de vin un peu partout dans la ville. Donc il connaît les ruelles par cœur, il a cette espèce de connaissance en anglais qu'on appelle, enfin il y a un terme anglais qui s'intitule streetwise en fait, qui n'a pas vraiment de traduction, je me tourne vers une traductrice de l'anglais qui est en fait la connaissance des rues, pas seulement la connaissance géographique mais aussi de toutes les dynamiques, en fait, sociologiques, économiques. En gros, il connaît tout le monde. Et en fait, c'est cette connaissance de son quartier qui va un peu le propulser dans les intrigues de sa ville, et un peu malgré lui, quand même, il faut le dire, et qui va donc faire qu'il va se retrouver dans une guerre entre les différents clans de la ville. Et donc, Nox, c'est quelqu'un de très naïf, en tout cas au début de l'aventure. C'est quelqu'un d'assez jeune, on revient à cette dimension de roman d'apprentissage dont parlait Claire tout à l'heure, qui va apprendre et découvrir un peu au fur et à mesure, et tout en faisant visiter la ville au lecteur.
Là, en fait, je retiens plusieurs mots importants, c'est aventure, c'est un peu la tradition littéraire dont j'ai l'impression que tu es le plus proche en fait, dans ce texte. Tu as un personnage parfait qui est vraiment le moteur de l'histoire et qui est une histoire d'aventure. Maintenant, je me tourne vers Claire. Son personnage est très différent parce qu'en fait, elle s'inscrit dans un type de récit très différent qui relève peut-être plus du roman d'éducation. Est-ce que tu peux nous parler de ton personnage ?
Oui, donc le personnage qui est au centre de la tribu de capitale du Nord, c'est Amalia. Il faut d'abord savoir que cette capitale du Nord, donc de Haven, c'est une capitale qui est très donc inspirée de l'Amsterdam du siècle d'or et que j'ai conçue comme une ville très cloisonnée socialement en fait. C'est vraiment une société de caste où il y a l'aristocratie et ensuite toute une suite de couches sociales, mais qui reste toujours un peu à part de l'aristocratie qui gère un peu toute cette ville. Et Amalia, elle est issue de cette classe supérieure de la ville, puisque c'est une jeune aristocrate, issue plutôt d'une lignée très importante de la ville, puisque sa mère siège à l'espèce de parlement, l'équivalent du parlement, et son père possède une compagnie commerciale. Donc vraiment, c'est pas du tout la fille du forgeron qui va. Voilà. C'est plutôt quelqu'un qui vient des hautes couches de la société et qui a reçu une éducation assez spéciale, parce que ses parents ont voulu faire d'elle, de son frère, des enfants des voisins, donc un petit groupe d'enfants comme ça, les citadins de demain, qui donnent leur nom au roman. Et ces citadins de demain, l'idée, c'était de les instruire dans des domaines utiles à la société. Donc l'économie, le droit, la gestion, les mathématiques, les sciences, tout, en laissant de côté tout ce qui est inutile, comme par exemple les arts, la fiction, la poésie. Ces choses-là qui servent pas à, on va dire, la prospérité de la ville. Voilà, c'est des gens qui sont quand même très obsédés par leur prospérité. Et en fait, du coup, ces enfants qui grandissent un petit peu à part des autres enfants de la ville développent un peu une tournure d'esprit un peu particulière et une grande curiosité scientifique pour beaucoup de choses, qui va pousser l'un d'eux à faire une expérience tout à fait scientifique et posée, comme on lui a appris, sur de la sorcellerie. Et en fait, du coup, à partir de là, ça va complètement déclencher toute une série de catastrophes qui font du coup la toile de fond de Citadins de demain. Donc, Amalia, c'est un personnage à l'image de sa ville, très raisonné, très pondéré. Donc, effectivement, elle a une certaine curiosité, mais on a tout fait pour qu'elle soit complètement dénuée d'imagination. Alors évidemment, quand on essaye de faire en sorte que les enfants soient dénués d'imagination, en général, ça ne marche pas du tout, mais pas du tout, du tout. Et du coup, c'est ce qui va être montré dans le roman. Ça va ou...
C'est très bien, mais en plus, tu me donnes, tu me fais penser à quelque chose, c'est que vous présentez ça avec un très grand naturel, alors qu'en fait, au sein même de la tradition du récit d'aventure fantastique ou de fantasy, vous faites en fait d'une certaine façon un pas de côté, parce que très souvent, la fantasy reprend les étapes de ce qu'on appelle le cycle du héros, où en fait le héros solitaire reçoit une épreuve, doit se livrer à une quête et en fait sauve tout seul l'humanité. Ce qui est malheureusement très souvent comme ça qu'on conçoit les récits de fantasy. Alors qu'en fait, il y a des auteurs dans l'histoire de la fantasy comme Ursula K. Le Guin ou même Tolkien qui ont essayé de mettre en place des récits plus collectifs. Vous, d'emblée, vos récits sont des récits doublement collectifs, c'est-à-dire au sein de chacune de vos trilogies, en fait, vos personnages se définissent par leurs amitiés, en fait. Le récit d'amitié est souvent un récit plus important que le récit d'amour. Et à un deuxième niveau, on a deux jeunesses, la jeunesse de la capitale du Sud et la jeunesse de la capitale du Nord, qui vont se rencontrer. Donc en fait, dans les deux cas, on a des formes d'odyssée collective, ce qui, d'un côté, vous éloigne d'une partie de la fantaisie, mais vous rapproche des grands maîtres de la fantaisie que sont Tolkien et Le Guin. Est-ce que, quand vous vous lancez dans l'écriture, vous dites, on écrit je me fixe comme objectif d'écrire une aventure collective, parce que je précise que Le Guin, elle, dès le début de son œuvre, s'était dit, il ne faut plus jamais écrire de récits de fantasy ou de science-fiction qui soient des odyssées individuelles. Est-ce que vous avez cette idée, ou ça vient naturellement parce que vous avez...
On s'est levé le matin, on s'est dit franchement, l'odyssée individuelle, non. On va faire un truc collectif. Non, non, honnêtement, pas du tout.
Pas du tout.
Alors,
Enfin,
après, non, ça s'est pas vraiment fait comme ça. Maintenant, c'est vrai que quand on a discuté, on a beaucoup discuté avant de se mettre à écrire avec Claire. Ce qui est sûr, c'est que ce dont tu parlais, ce fameux voyage du héros, qui est un peu aujourd'hui un guide de comment est-ce qu'il faut construire une intrigue pour qu'elle parle à un public qu'on pourrait qualifier de bah, plutôt un public occidental en fait. C'est exactement le voyage du héros, pour vous situer, c'est vraiment typiquement le premier épisode de Star Wars. C'est-à-dire un jeune héros, on lui présente une épreuve, il la refuse, il rencontre un mentor qui l'entraîne, le mentor disparaît, et à la fin, enfin voilà,
Après, c'est collectif Star
mais
Wars,
voilà,
enfin,
c'est
il
quelque
rejoint la
chose.
rébellion, ils sont
Voilà,
loin, quoi, tu vois,
oui,
c'est
mais ça reste quand
un.
même lui le héros, et en fait, c'est quelque chose que. Bah, on en a beaucoup soupé, enfin on en a beaucoup lu, regardé, on a vu beaucoup de romans qui avaient exactement ce même schéma, beaucoup de fictions télévisuelles qui avaient exactement ce même schéma. Et c'est vrai que bah, quand on a commencé nous à discuter du cycle de la Tour de Garde, on savait que c'était pas le schéma vers lequel on voulait aller. On s'est pas dit comme Ursula Le Guin, il faut faire la fiction panier, le fait que c'est une odyssée collective, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais quelque part, c'est venu au fur et à mesure de l'écriture, d'autant que la Tour de Garde, c'est le nom du cycle. La Tour de Garde, c'est plusieurs choses au sein du cycle. Mais surtout, c'est ce qu'on voulait dès le début, et ça, on s'est un peu mis d'accord, c'est que cette tour, qui est un peu symbolique, c'est une construction commune, à la fois de Claire et moi en tant qu'auteur, mais aussi de tous les personnages qui vont apporter un petit peu leur pierre à l'édifice. Nos héros narrateurs, évidemment, Nox et Amalia, mais aussi tous les autres personnages qui vont petit à petit y apporter des petites pierres.
Et je pense que c'est là qu'il faut quand même parler d'une chose qui est importante dans le cycle de la tour de garde, c'est que cette tour de garde est une tour, à proprement parler, mais c'est aussi un jeu de société en fait, qu'on a inventé, qui est commun dans les deux villes. Beaucoup de personnages jouent à ce jeu de société, c'est un peu un des fils rouges qu'on a et qui rapproche les textes. Et effectivement, dans ce jeu, chaque pièce, c'est, on va
Une
dire, un
fonction sociale
métier
ou
ou
un
une fonction
métier.
sociale. Voilà, il y a le garde, il y a le marchand d'épices, il y a le lancier, il y a le bâtisseur, voilà. Et en fait, finalement, enfin, nous, ça nous intéressait parce que ça permettait aussi de faire aussi un fil rouge et de se faire rencontrer des personnages, parce que se rencontrer pour jouer à des jeux ensemble, bah, c'est quelque chose qui lie les êtres humains, on
Ça
va
fait
dire,
des
hein,
amitiés.
ça crée des amitiés durables. Et aussi, il y a un côté, métaphoriquement, c'est ce qu'on fait aussi, Guillaume et moi, en écrivant ce cycle, c'est que chacun avance ses figurines, chacun de son côté, et l'autre répond en mettant ses figurines. Donc, on joue ensemble d'une certaine manière, et voilà, ça crée une partie, en fait. Donc, en ça, oui, c'est collectif, et en ça, pour nous, c'était important que tous les personnages, en fait, dans le roman, aient tous les personnages secondaires aient autant de consistance et d'importance que le personnage narrateur, le protagoniste, parce qu'en fait, chacun est une figurine de la tour de garde, et il a son rôle et son importance, il a ses objectifs, il est, en fait, il est potentiellement personnage principal de sa propre histoire, quoi. On ne voulait pas de ce genre de roman où, finalement, tous les personnages qui tournent autour du protagoniste, ils sont là pour aider l'intrigue du protagoniste. Enfin, je trouve que c'est souvent ça se voit un peu trop, quoi.
Mais
J'en profite parce que justement, on parle de la tour de garde où c'est deux personnes qui s'affrontent sur un plateau. Alors, quand vous avez commencé à écrire votre histoire pour que l'histoire se lie, je présume que vous avez un peu discuté ou un peu comme dans la tour de garde, vous dites non, je vais faire ça et puis on va voir comment elle réagit. Voilà, comment ça a été votre. L'idée dans le travail, si vous vous disiez tout ou si vous vous gardiez un petit peu tard
Bah, un peu des deux, un peu des deux en fait. On a évidemment échangé beaucoup sur
des grandes
avant
lignes.
les grandes lignes, voilà, pour savoir exactement bah, la capitale du Nord, ça va parler de ça. À un moment, il va se passer ça, là, le grand retournement de fin d'épisode, ce sera ça. Mais au fur et à mesure de l'écriture, bah, on se gardait un petit peu des petites surprises l'un l'autre parce que l'idée c'était quand même de se surprendre
Oui, ben, au début, on n'a pas fait ça pour être publié à la base. On faisait ça pour
aussi.
s'amuser, en
C'était un
fait.
jeu.
Oui, c'était un jeu, et puis effectivement, l'idée c'était ah tiens, qu'est-ce qui va répondre à ça? Je vais l'épater.
Mais cela dit, c'est une très très bonne métaphore de l'écriture sur le fait que parfois on se méprend sur ce qu'est un jeu, c'est-à-dire qu'effectivement un jeu c'est fait pour s'amuser, mais il y a toujours un enjeu, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose de très important qui se joue dans un jeu. Et pour moi, à la fois le jeu de la tour de garde et les romans de la tour de garde, c'est ça, et ça rejoint en fait cette idée tout à l'heure des grands auteurs qui sont à la fois dans quelque chose qui est extrêmement divertissant. Parce que quand on lit la tour de garde, les personnages existent, on a envie de savoir ce qui leur arrive, il y a des rebondissements, il y a des cliffhangers, comme tu dis. Et parallèlement, il y a quelque chose qui se passe, il y a des valeurs qui affleurent, il y a des grands enjeux thématiques qui se retrouvent parfois concentrés dans des petites scènes. Voilà, donc il y a la tour de garde comme grand jeu, dans tous les sens du terme.
Il y a des recettes de cuisine aussi.
Et il y a des
encore une fois, parce que franchement, c'est
alors, cela dit, tu,
ça donne ça... faim. Ça donne faim, hein. Je me souviens, il y avait une recette.
Plus dans le sud.
C'était du fromage ou quelque chose comme ça.
Les cannelons.
Les cannelons, voilà. Elle a fait avec, du,
c'est vrai, sur
avec
le
de la
coup,
charcuterie.
On, quand on voit ça, on se dit tiens, j'aimerais bien manger. Puis le vin aussi. Il y a une bonne description sur le vin, parce que justement, comme les Nox et commis d'épicerie. Et c'est vrai que toute cette, cette chaleur de la ville, ce goût. En fait, on le retrouve très bien dans la capitale du Sud.
Bah, l'idée, c'était comment créer, en fait, dans un roman finalement assez court, puisqu'il fait seulement 400 pages, en tout cas le premier tome, comment créer une culture, en fait, au sein d'une ville, et pas seulement la culture des hauts faits, la culture des conquêtes, des conquêtes militaires, comme on a souvent en fantasy, mais vraiment la culture, j'ai envie de dire, à fleur de pavé, la culture de la rue. Et en fait, ben, moi, après, c'est un peu une déformation de ma part, mais la manière de le faire, c'était de dire bah, la culture à fleur de pavé, c'est la nourriture et le vin. C'est ce que mangent aussi bien les gens dans les rues, c'est ce que mange le forgeron, c'est ce que va manger, c'est ce qu'on va manger tous les artisans, et aussi ce que vont manger bah, les puissants d'une manière générale. Donc, je me suis dit, bah, ça peut être pour faire une visite guidée de cette ville, qui est quand même l'objet du premier tome d'une trilogie. Plutôt que d'aller dans des descriptions sans fin, et ben on va faire la visite avec le vin et la nourriture. D'ailleurs, le sang de la cité, comme on dit, le sang en l'occurrence, c'est le sang de la cité, c'est le vin, parce qu'on dit que dans cette ville, ce qui coule dans les veines des habitants, c'est du vin.
Mais cela dit, c'est ce que tu dis, c'est l'écho d'un autre. Je reviens sur le médiévalisme en fait qu'on peut trouver dans vos textes d'une certaine façon, c'est que pendant très longtemps. Écrire le Moyen-Âge, c'était écrire les rois, les histoires des rois et des généraux. Et en fait, depuis les années 70, il y a toute une école de médiévistes dont le travail, c'est la vie quotidienne et surtout les récits des gens humbles, en fait.
C'est
de reconstituer l'histoire orale du Moyen-Âge.
En fait,
oui, et ça recrée quelque chose. Ça évite d'avoir du Moyen-Âge en carton, en fait.
Et c'est pour ça aussi qu'on a, je fais une digression, mais c'est aussi pour ça qu'on a plein d'idées préconçues sur le Moyen-Âge, comme quoi par exemple les gens se lavaient jamais, ce qui était faux. C'est parce qu'en fait, on sait, jusque dans les années 70, on s'intéressait finalement très très peu à la vie de la population, on s'intéressait vraiment qu'aux puissants. Et c'était aussi un peu l'objet de la tour de garde de se dire, bah, nous on va faire une fantasy bah, qui est aussi un peu cette vision-là de dire, bah, on va pas que parler des puissants, mais aussi parler de tout le monde en fait.
Là, dans quelques jours, le deuxième volume de la trilogie Capitale du Nord, qui est la trilogie que tu écris, Claire, va sortir. Donc là, techniquement, aujourd'hui, on est pile à la moitié du déploiement de cette grande aventure littéraire. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant? De manière, sans entrer dans les détails, c'est-à-dire pour moi, vos héros... sont sortis de l'enfance de manière brutale, quoi. C'est des jeunes gens.
Oui.
C'est ça, les quatre premiers volumes, c'est vraiment
c'est effectivement
accéder à l'âge adulte, voilà. Définitivement. Voilà.
Mais les deux premiers volumes, évidemment, c'est la sortie de l'enfance. Ouais.
Voilà.
De façon assez... C'est un roman, quoi. Donc, il se passe pas que des bonnes choses, quoi.
C'est brutal. Et les volumes 3, qui vont conclure les trilogies, sortent en avril prochain et en octobre prochain. Ouais. Qu'est-ce que vous nous préparez dans ces volumes?
Des explosions, des...
On va essayer, enfin en tout cas, que la fin se fasse en apothéose et surtout bah, que les deux fins aient un sens en fait. Enfin, effectivement, à la fin des deux trilogies, on a le fait que les intrigues vont se croiser. Voilà, sans en dire trop, effectivement, nous l'idée c'est que bah, c'est que les lecteurs soient heureux en fait en arrivant à la fin, pas parce que c'était long et insupportable, mais parce que justement ils ont eu, on a trouvé une
sensation d'aboutissement en fait.
Voilà, on espère que qu'il y aura cette sensation d'aboutissement et que les lecteurs bah, seront satisfaits de la voie qu'on a choisi de suivre.
À titre personnel, en tant qu'éditeur, je vous suis très très reconnaissant, pas parce que c'est des grands succès esthétiques et commerciaux, même si c'est un motif de reconnaissance. Non, mais parce que ça rejoint, en fait, dans ma bibliothèque personnelle, les œuvres, quand on referme un volume, on se dit que les personnages ont existé et on retrouve l'émerveillement de la lecture de se dire mais comment ils ont fait ça? Parce que est-ce que c'est parce que quand un texte se déploie comme ça, il arrive à créer des personnages par la répétition, ou est-ce que c'est vraiment dans des petites scènes, des choses comme ça, par le sens du concret? Je ne sais pas, il y a une magie là-dedans. Pour moi, la magie a opéré. Donc je vous remercie. Et je vais peut-être me tourner vers l'Assemblée. Alors peut-être que toi tu as des questions.
Non, vous avez à peu près tout. Il y a juste une petite question d'un point de vue esthétique des couvertures. J'en profite vu que nous avons l'éditeur. Là on voit vraiment la différence entre la capitale du Nord et la capitale du Sud. Et je voulais savoir comment vous est venue cette idée de couverture.
Ça montre effectivement.
Par rapport à ça, parce que je trouve qu'il y a vraiment un décalage, et en fait, on retrouve ce décalage dans l'écriture. Je trouve que c'est vraiment bien mené. On met vraiment les deux cités en valeur.
On a vraiment des couvertures qui se suivent, qui se complètent, puis qui. Enfin, l'illustratrice a vraiment saisi le côté miroir, en fait, de la saga, c'est que chaque ville est le miroir de l'autre, vraiment.
Et à terme, les six couvertures forment une seule grande fresque, avec cette idée qu'on a suivi des personnages extrêmement variés, il y a deux trilogies, deux auteurs distincts, et pourtant, à la fin, c'est une seule odyssée collective de tout un continent qui va s'effondrer et renaître autour d'une sorte d'utopie, en fait, qui va être la tour de garde, utopie collective. Alors, un petit mot quand même de la graphiste. Donc Elena Vieillard, c'est la graphiste des éditions Forges de Vulcain depuis le début des Forges. Elena, je l'avais repérée quand elle était encore en école d'art et que dès le mois de février, elle envoyait ses CV un peu partout. Et sur son site internet, il y a tout ce qu'elle avait pu faire. Et parmi les différentes choses qu'elle avait pu faire, elle avait fait les affiches de la campagne 2010 au régional du Front de Gauche. Et j'ai trouvé ça super. Pas parce que c'était le Front de Gauche particulièrement, mais parce que souvent, les affiches politiques, on voit le visage de la personne qui se présente, et c'est très moche. Ça veut pas dire que les gens sont moches, mais c'est pas très visuellement palpitant. Il y a quelqu'un là-bas qui dit « si, si, ils sont moches ». Non, mais voilà, c'est... Chacun son métier, le métier des hommes et des femmes politiques, c'est pas d'être beau particulièrement. Mais en tout cas, Elena avait fait quelque chose où il n'y avait pas ces visages-là. Donc elle avait fait des vraies créations graphiques, visuelles. Et en faisant ça, elle renouait avec quelque chose de très important qu'on a parfois oublié dans l'édition. C'est que une couverture, c'est une forme d'affiche. Et pour moi, la grande période de la création de la couverture de livres, c'est la République de Weimar en Allemagne il y a 100 ans, où en fait les grands affichistes de l'époque étaient aussi des auteurs de couverture, notamment pour l'éditeur allemand Fischer. Et donc, elle a créé cet écrin visuel qui est l'écrin de tous les romans des Forges. Pour ce texte, l'idée aussi, c'est que souvent, malheureusement, dans l'édition, c'est plein de petits métiers, l'édition, qui vont se retrouver dissociés sans se parler les uns aux autres. Alors que je pense, mais ça c'est aussi vers toi en tant qu'éditrice que je me tourne, c'est que quand on est notamment dans l'édition indépendante, on essaye d'avoir cet effort de garder une cohérence totale entre ceux qui ont lu le texte, ceux qui l'ont écrit, ceux qui l'ont lu, et ceux qui vont essayer de l'envelopper, la manière dont on en parle aussi. C'est-à-dire, on ne publie que des livres qu'on a lus, et comme ça, on ne parle que des livres qu'on a lus, ce qui n'est pas la situation de tout le monde dans l'édition. Et là, je me tourne vers Guillaume, voilà, qui est dans une position où lui, il voit des gens qui vont lui parler de livres qu'ils n'ont pas lus. Mmh. Pourtant, ils sont en train de les vendre. Voilà. Donc, en fait, Elena, elle devait imaginer un écrin qui collait vraiment à ce qu'était ce projet, qui respectait le fait qu'il y avait deux auteurs, deux mondes, mais qu'il y avait une utopie, et elle a conçu ça à partir de ces instructions très précises. Il faut voir aussi que souvent, les couvertures dans l'édition, c'est très moche, parce que les éditeurs et éditrices n'ont aucun sens visuel, et ils essaient d'intervenir sur les couvertures, alors qu'en fait, je pense qu'il faut donner une petite instruction à l'illustrateur et à l'illustratrice, et le laisser ou la laisser exprimer son talent, ce qui est le cas d'Elena, qui est une personne qui ne Réagit pas très bien quand on lui donne des instructions trop précises. Donc il faut laisser sa liberté se déployer. Et donc c'est elle qui est arrivée assez rapidement. Cela dit, il y avait une décision éditoriale faite avec les auteurs juste avant, c'était le découpage. Parce qu'initialement, ce n'est pas deux trilogies, c'était potentiellement deux gros livres.
C'était un énorme monceau de texte qu'on
voilà, fait. Voilà, c'était. Et le tout, ça a été de trouver le meilleur mécanisme. Et les mécanismes, ça a été de. Comme Claire avait déjà été publiée aux éditions Forges du Vulcain avec Un long voyage, son premier roman, l'idée c'était que l'ami Guillaume ne soit pas perçu comme étant arrimé à Claire, mais comme étant lui-même un auteur de premier roman. Et donc on a pris en quelque sorte le risque de sortir Guillaume d'abord. Donc c'est pour ça qu'il y a d'abord eu La capitale du Sud qui est sortie, et avec succès. Donc ça, c'était un premier élément. Et donc finalement, on a... oui, c'est Elena qui a eu l'idée. Et d'une part, beaucoup de lecteurs et lectrices apprécient ces couvertures. Et elles ont gagné le Grand Prix de l'Imaginaire cette année, qui était une belle consécration pour Elena. Voilà. Et ben, je vais peut-être me tourner vers l'Assemblée, si l'Assemblée a des questions. Oui.
Tout à l'heure, vous avez parlé de la culture à fleur de peau dans la. Et vous, monsieur le prénom Guillaume.
Oui.
Eh bien, vous n'avez pas parlé, peut-être que c'est un oubli, de la poésie, et en particulier de la naissance de la prose.
Alors, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Ça fait aussi partie de cette culture que je voulais insuffler dans la ville. Gemina, c'est aussi un peu, quelque part, la ville de la littérature. En fait, à la base, c'est même. Un peu à l'image de la Rome antique, la ville de la rhétorique. Je voulais que ça se ressente aussi dans les dialogues entre les personnages. Et par extension, ça devient la ville de la poésie, un petit peu de la poésie antique. Et d'ailleurs, le personnage de Nox, quand il n'est pas en train de livrer des denrées et des bouteilles de vin, il fait des concours de poésie avec ses amis dans les rues. Donc effectivement, c'est aussi ça que je voulais insuffler dans le roman. Et de la même manière, cette poésie, je voulais que ce soit aussi une poésie quelque part un peu des rues, en fait. Que ce ne soit pas la grande poésie épique qui parle encore une fois de conquête. Il y a quelques passages que je me suis un peu amusé effectivement à mettre en poésie, qui sont parfois des comptines, en fait. C'est aussi bien, voilà, aussi bien la poésie qui va moquer quelqu'un que la poésie qui va parler des grands héros. Donc il y avait cette espèce de côté où c'est un tout, en fait, une espèce de bloc un peu protéiforme, où à force de dire il peut y avoir des poésies sur tout, ça ouvre un peu l'imaginaire du lecteur qui se dit ça signifie que dans le roman, je n'ai qu'une petite vision de cet univers poétique qui habite la ville de Gemina. Donc donner un peu une impression de quelque chose de plus grand. Ah, voilà, on avait dit qu'il fallait pas spoiler, mais on va le faire, on va pas divulgâcher, je vais essayer d'en parler sans divulgâcher. L'idée, c'est qu'effectivement, donc, il y a quelques éléments de fantastique et de merveilleux dans ces romans, et je voulais que ce soit, que je voulais, donc déjà, c'était, en gros, il y a, en parallèle de la ville, une autre ville, qui elle, donc, qui est complètement par un jeu de miroir, une ville, donc, Gemina est une ville très exubérante, très bruyante, où il y a des odeurs tout le temps, du son, etc. Et puis, il y a cette espèce de ville qui est complètement vide, dans laquelle pénètre le narrateur, qu'il découvre un peu au fur et à mesure, et qui est vide, sinistre, froide, et aussi, où on dit, un peu dangereuse. Et je me suis dit, plutôt que de faire comme dans le monde de Narnia, où il passerait dans une armoire magique, et puis tout d'un coup, pouf, il se retrouve dans cette ville, même si j'aime beaucoup Narnia, hein, c'est pas la question, et c'est un peu un hommage aussi à ça. Je me suis dit, ça peut être, en fait, ce champ de la cité, comme l'appelle Nox, cette espèce de mélange de bruit, d'odeur un peu synesthésique, de toutes ces perceptions sensorielles qui lui arrivent, trouver en fait une poésie dont la rythmique se cale complètement sur ce champ de la cité. Et c'est en trouvant cette rythmique qu'il bascule en fait dans cet autre univers. Donc effectivement, c'est en ça aussi que la poésie a une importance particulière, c'est qu'elle lui permet de voyager dans un autre monde. Et après, on peut ergoter sur le côté, c'est aussi une métaphore de la littérature d'une manière générale, ce que je voulais aussi, mais c'est, en tout cas, dans le cadre du récit, c'est comme ça que ça se passe.
D'autres questions? Eh bien, nous allons lever cette assemblée en vous rappelant que les deux auteurs sont là, donc vous pouvez aller leur poser des questions, vous allez vous acheter leurs livres et vous les faire dédicacer. Je remercie beaucoup la médiathèque de l'Europe à Bussy-Saint-Georges
Merci
de nous
beaucoup.
avoir invités. Nous étions le samedi 17 septembre 2022, c'était les Journées du patrimoine et c'était surtout Claire Duvivier et Guillaume Chamanetian qui nous parlaient du cycle de la Tour de Garde publié aux éditions aux Forges de Vulcain. Merci.
Merci.
Merci.